Mardi, à la réunion d'études, on a poursuivi notre réflexion sur la première épître de Pierre, chapitre 2. Et après avoir abordé la première partie, qui est une partie un peu plus technique, j'aimerais ce matin poursuivre avec vous en lisant les versets, des versets 11 au verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. La deuxième partie qui est plus pratique, qui est plus pratique pour nos vies chrétiennes. Alors nous lirons 1 Pierre chapitre 2 versets 11 à 25. Et l'apôtre Pierre écrit: Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens. Ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant du mal, comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Verset 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, aux autorités, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car, poursuit l'apôtre Paul au verset 19, c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela en effet que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Verset 23. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont la meurtrissure vous a guéri, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retourné vers le berger et le gardien de vos âmes. Et l'apôtre Pierre ici fait référence à une prophétie d'Ésaïe 53. L'épître de Pierre, comme nous l'avons vu en réunion d'études, a probablement été écrite autour de l'an 70. Et de notre ère, et elle est destinée à des juifs essentiellement, des juifs qui sont victimes de la diaspora à cause de la persécution qui était devenue latente et effective déjà à Jérusalem. Ils sont répartis, disséminés sur plusieurs provinces de l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, comme la province de la Cappadoce, de la Bithynie, ou encore du Pont. Alors, au verset 11, Pierre écrit: Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs sur la terre. Alors ici, Pierre, comme nous l'avons vu en réunion d'études, ne fait pas uniquement référence au statut d'exilé des Juifs qui sont répandus dans l'Asie mineure, mais il désigne aussi la position que le chrétien occupe. Donc il considère surtout la condition d'étranger que le chrétien occupe sur cette terre. Pierre, d'ailleurs, n'est pas le seul à considérer cette position du chrétien qui est considéré comme un étranger et comme un voyageur, puisque l'apôtre écrit aussi en Philippiens 3, verset 20, ceci: nous sommes citoyens du royaume des cieux, de là où nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. Nous sommes citoyens d'ailleurs. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 11, verset 13 à 16, parle de ces héros, ces géants de la foi, qui, malgré qu'ils n'ont pas vu se réaliser la promesse, attendaient une autre patrie et ils se reconnaissaient comme étant étrangers aussi et voyageurs sur la terre. Et puis l'apôtre Paul aussi, encore en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous dit, écrit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est étranger dans le pays où il se trouve et qui représente son propre pays à lui, qui est le porte-parole en quelque sorte de son propre pays. Et nous sommes ses ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Comment nous acquittons-nous de cette responsabilité et de cet honneur que Dieu nous fait finalement d'être ses ambassadeurs, ses représentants sur la terre? Alors certains chrétiens comme les moines, les nonnes, les sœurs, les ermites ont littéralement coupé définitivement leur contact, tout contact avec le monde pour se protéger de toutes les tentations et de toutes les séductions que le monde peut leur offrir en se retranchant dans des couvents, dans des monastères ou dans des retraites. Mais Jésus, comme on le sait, n'a cependant pas demandé à ses disciples de sortir du monde, mais de ne pas s'identifier avec le monde. Voilà ce que Jésus a demandé à ses disciples. Il écrit en Jean 17, versets 15 à 17, en s'adressant au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les protéger, de les préserver du mal. » Pourquoi ? Eh bien, parce que le diable, comme dit Jésus, comme le souligne Jésus en Jean chapitre 16, verset 11, est le prince de ce monde. Et Jean va aussi écrire dans sa première épître, donc plus loin dans le Nouveau Testament, au chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Alors le chrétien qui accepte ce statut d'étranger et de voyageur sur la terre comprend qu'il vit dans un monde qui est gouverné, qui est dirigé, qui est régi par Satan. Mais s'il s'y installe, s'il s'y complaît, il risque de se laisser endormir et de trouver normal les choses qui s'y déroulent, les choses qui s'y passent. Pourtant, en Christ, nous sommes citoyens d'ailleurs. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et sur le plan moral, en tant qu'étrangers et voyageurs sur cette terre, nous n'avons plus rien à voir avec le monde. Sur le plan de l'éthique morale, on n'a plus rien à voir avec le monde. Nous sommes comme l'argyromètre. Coralie, peut-être qu'elle sait ce que c'est, mais je doute que la plupart d'entre vous le sachiez. L'argyromètre, eh bien, tu sais ce que c'est ? Je vais lui apprendre quelque chose. Eh bien, l'argyromètre, c'est une sorte d'araignée qui vit sous l'eau. Elle construit une cloche, elle tisse une cloche de soie et elle va à la surface de l'eau pour la remplir d'air. Et de cette manière, elle peut descendre dans l'eau tout en pouvant respirer à l'intérieur de cette cloche d'air. Elle vit donc sous l'eau sans pour autant faire partie intégrante du milieu aquatique. Et c'est là une image du chrétien, frères et sœurs. Nous vivons dans le monde sans pour autant y être. Nous vivons dans le monde tout en étant dans notre cloche spirituelle. L'argyromètre, vous allez retenir le nom de cet insecte. Cette position et ce statut de chrétien, étranger et voyageur sur la terre, comportent quatre implications que l'apôtre Pierre va développer dans les versets suivants. La première implication de notre position, de notre statut d'étranger et de voyageur sur la terre, la première implication c'est, eh bien, que nous sommes appelés à nous abstenir des convoitises ou des désirs charnels. La deuxième implication, c'est que nous devons avoir un comportement droit, un comportement pur, une conduite honnête parmi les gens du monde. Troisièmement, troisième implication, nous devons faire preuve en tant qu'étrangers voyageurs sur cette terre de soumission et de respect envers les autorités. Et enfin, quatrièmement, le chrétien, étranger et voyageur sur la terre, doit être soumis à ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre de son travail. Tout d'abord, en tant qu'étranger sur la terre, le chrétien doit s'abstenir des convoitises ou bien des désirs charnels. Alors, les désirs ou les convoitises ne se rattachent pas uniquement aux désirs sexuels, comme on a parfois tendance à le croire. Il y a de ces choses, mais ça va plus loin. Et l'apôtre Paul, dans le livre, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, verset 19, quand il énumère les caractéristiques des œuvres de la chair, écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, l'impudicité, la dissolution, la fornication, l'adultère, mais encore l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, c'est-à-dire l'antipathie ou l'hostilité, les querelles, les jalousies, les animosités, en d'autres termes la malveillance et l'attitude agressive, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et on pourrait encore y ajouter l'orgueil, les mauvaises langues, calomnie, médisance, l'égoïsme, l'indifférence, le mensonge ou encore la malhonnêteté. Alors Pierre, l'apôtre, poursuit au verset 11 en écrivant que ces désirs charnels, ces convoitises charnelles, eh bien, elles font la guerre à l'âme. Alors l'âme, ici, désigne l'entièreté de l'homme né de nouveau, de l'homme régénéré. Et entre ces désirs charnels, entre ces convoitises charnelles et notre âme, il y a un antagonisme, il y a une lutte, il y a un combat, il y a une guerre, comme le rappelle l'apôtre Pierre. Et chacune de ces deux entités veut revendiquer le cœur de l'être humain, le cœur du chrétien. Et si je n'ai pas de relation avec Dieu, alors les désirs charnels prendront le dessus. Par contre, si j'ai une bonne relation avec Dieu, il n'y aura plus de place pour que ces pulsions mauvaises s'expriment. Si je suis en bonne relation avec Dieu, eh bien, il n'y aura plus de place pour ce que Paul énumère dans Galates 5, verset 19. Il n'y aura plus de place pour l'impureté, il n'y aura plus de place pour l'impudicité, la fornication, l'adultère, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les animosités, etc., etc., etc. Par contre, si je manque de communion avec Dieu, j'aurai une propension naturelle à manifester ses œuvres de la chair. C'est une discipline qui est difficile parce que ces pulsions, elles sont des instincts, je vais dire naturels, du vieil homme, comme la Bible l'appelle, de l'homme sans Dieu. Ce sont des instincts naturels comme le fait de manger, de boire ou de dormir. Donc c'est quelque chose qu'on exprime facilement en quelque sorte. La deuxième implication liée à notre position d'étranger, à notre statut d'étranger et de voyageur sur cette terre, versets 12 et verset 15, au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Et puis au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. La bonne conduite devant les gens du monde. Au premier siècle, les païens qui s'opposaient à la foi chrétienne, eh bien, considéraient injustement les chrétiens comme étant des malfaiteurs, les accusant de cannibalisme, les accusant de buveurs de sang, parce qu'ils avaient probablement mal compris le sens profond de la Sainte-Seine, les accusant aussi d'inceste et les méprisant parce qu'ils refusaient d'adorer César et toute cette cohorte de dieux romains. Malgré ce mauvais climat relationnel, l'apôtre Pierre encourage les chrétiens d'Asie mineure à être irréprochables dans leur conduite, afin de confondre ces bouches mensongères, en espérant aussi que plusieurs soient touchés à salut par le bon comportement des chrétiens, par la noblesse de leur vertu. Alors qu'en est-il aujourd'hui pour nous, frères et sœurs ? Quant à notre témoignage, quant à notre comportement vis-à-vis de nos contemporains. Quel témoignage est-ce que je laisse à ceux qui vivent autour de moi? Troisième implication, versets 14 et verset 15, versets 13 et 14, pardon, où nous lisons, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal, et louer ceux qui font le bien. » Donc, troisième implication de notre statut, de notre position d'étranger et de voyageur sur la terre, c'est le fait de respecter et d'être soumis aux autorités, aux lois établies. Et Pierre précise que c'est honorer Dieu que de les respecter. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui les a institués. Romains 13, entre autres, verset 1er, nous dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. » La seule condition, cependant, à cela, eh bien, c'est que ces lois humaines ne viennent pas à l'encontre, ne soient pas à l'encontre de la parole de Dieu, ne soient pas à l'encontre des commandements, des lois divines. Mais généralement, jusqu'à présent, c'est rarement le cas. Toujours est-il que l'apôtre Pierre, dans le livre des Actes, a été confronté à cette situation. On l'a empêché de parler de Jésus, et avec les apôtres, il a répondu en Actes chapitre 5, verset 10, verset 29, « Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » C'est la seule restriction. La soumission aux lois et aux autorités, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Nous devons aussi encore, de nos jours, rester respectueux et soumis aux autorités, soumis aux lois qui sont établies. Comme, par exemple, respecter la loi du code de la route, ou bien respecter la loi du voisinage, ou bien respecter la loi de l'environnement, ou bien payer ses factures en temps et à l'heure. Tout cela montre que nous sommes soumis aux autorités. Même si c'est vrai que parfois il y a certaines lois qui sont farfelues, vous avez entendu récemment qu'on doit demander l'autorisation à la commune maintenant pour posséder un poisson rouge. Mais soyons et restons soumis aux autorités. Quatrième implication, c'est que l'étranger et le voyageur que nous sommes en tant que chrétiens sur la terre doit aussi être soumis à ses supérieurs hiérarchiques. Alors certains maîtres au 1er siècle étaient bons, débonnaires, justes, doux, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Parfois même, certains considéraient certains serviteurs comme faisant partie des membres de leur famille. Mais d'autres, par contre, étaient plus difficiles. Ils étaient injustes, sévères, impitoyables, durs. Et contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui, à ce que les employés connaissent aujourd'hui, il n'y avait aucune loi qui était en faveur du serviteur à l'époque de l'apôtre Pierre. Aucun recours légal n'était possible. Pierre écrit, dans la lettre que nous avons lue, qu'il est normal d'être puni si on est pris en défaut, si on le mérite, si on a commis quelque écart ou quelque faute, comme on punit un enfant lorsqu'il désobéit finalement. Mais il poursuit en écrivant que souffrir une quelconque injustice à cause de sa foi, à cause de sa position de chrétien, est perçu par Pierre comme un privilège, comme une grâce devant Dieu. C'est ce qu'il écrit au verset 20. C'est une grâce devant Dieu que de souffrir une quelconque injustice à cause de ma foi. Je ne partage sans doute pas toujours cette conviction. Et pourtant, dans Matthieu 5, versets 11 et 12, Jésus dit ceci: « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. » Voilà la consolation excellente que Dieu, que Jésus nous promet si nous sommes résilients dans l'épreuve à cause de la persécution liée à notre foi. Alors qu'en est-il de mes relations aujourd'hui en tant que chrétien, avec mon directeur, avec mes contremaîtres, avec mon chef d'entreprise, mon chef de bureau ou mon patron? Est-ce qu'ils sont au courant de ma foi chrétienne, que je suis chrétien? Si tel est le cas, est-ce que je suis l'objet de moqueries, de sarcasmes, de railleries, de rejets, de mépris, etc.? Cela peut arriver. Et si cela arrive, si tel est le cas, comment est-ce que je réagis? On n'a pas toujours tendance à réagir avec le dos de la cuillère. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis persévérant dans l'épreuve? Évidemment, personne ne cherche à être exposé à ce genre de situation. Mais ma fidélité à Dieu dans un contexte qui est hostile a pour objectif, hormis le fait de le glorifier, celui aussi, et encore, de permettre à celui qui m'opprime ou qui m'oppresse d'être interpellé par ma conduite, et peut-être, qui sait, un jour, de se poser des questions fondamentales quant à la réalité de son être devant la souveraineté et la sainteté de Dieu. On pourrait croire que l'apôtre Pierre pousse le bouchon un peu trop loin. Mais l'apôtre Paul aussi va dans le même sens. En Philippiens 3, verset 10, eh bien, lorsqu'il appelle les souffrances liées au témoignage chrétien, il appelle les souffrances liées au témoignage chrétien la communion aux souffrances de Christ. Donc lorsque nous souffrons, à cause de notre témoignage chrétien, nous sommes en communion avec les souffrances que le Christ Jésus a aussi endurées. Et puis il y a ce verset de 2 Timothée 3, verset 12, « Or, que nous connaissons très bien, or tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. » Alors cette souffrance est liée à l'obéissance de Christ dans un cadre opposé à Christ. Toutefois, on va bientôt terminer, donc faisons un petit effort pour rester éveillé. Je vois quelques paupières qui ont tendance à s'apesantir. Toutefois, si les choses prennent des proportions insupportables, Si on ne parvient plus à supporter une situation sur un lieu de travail ou ailleurs à cause de l'oppression d'un patron, d'un chef ou d'une personne qui fait preuve d'autoritarisme, eh bien, les lois, heureusement, contemporaines peuvent intervenir et heureusement. Alors, dans les derniers versets, Pierre encourage ses lecteurs à prendre l'exemple divin que Jésus a laissé sur cette terre. Divin, le divin modèle qui a tout supporté, l'injustice, la moquerie, le rejet, la maltraitance, la persécution. Au verset 23, l'apôtre Pierre écrit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. » Conclusion. Depuis quelques secondes. Est-ce que je suis réellement étranger et voyageur sur cette terre? Ou est-ce que j'ai tendance à me fondre dans le moule du monde? Première question de réflexion. Est-ce que je m'abstiens des désirs charnels qui font la guerre à mon âme? Est-ce que je suis soumis aux autorités sachant qu'elles viennent de Dieu? Est-ce que je respecte enfin mes supérieurs hiérarchiques, même les plus tordus? C'est une consécration totale, pleine et entière à Dieu, qui va à contre-courant de l'esprit de ce monde. C'est un mode de vie qui n'est pas facile. Mais la clé pour vivre réellement en tant qu'étranger et voyageur sur cette terre, c'est de rester connecté à la sphère spirituelle. Assis avec Christ dans les lieux par la foi, assis avec Christ dans les lieux célestes. La clé se trouve dans le fait de rester connecté au royaume de Dieu, notre patrie, tout en sachant rechercher, vivre et entretenir notre relation avec Dieu. C'est important ce que je vous partage là maintenant, ce matin. Vivre en communion avec Dieu pour pouvoir vivre mieux ce statut d'étranger et de voyageur sur la terre qui devrait caractériser chaque chrétien.